Merci à tous les intervenants pour la question numéro 2 qui concernait donc l'Europe économique. Nous allons passer au troisième volet de nos questions, la question portant cette fois-ci sur l'Europe sociale et la citoyenneté. Alors, je vais poser cette question et le premier intervenant sera M. Jan Powels. La question est la suivante. Ne faut-il pas, après l'Europe économique, faire celle des citoyens, l'Europe de la famille, de la protection sociale, du travail, créer une société européenne par la culture et les échanges entre Européens? Vous avez la parole.
D'accord. Je vais commencer en une impression par rapport à ce débat, essayer d'évacuer une fausse alternative dans la façon dont se pose le débat. Je ne pense pas qu'il faille poser la question entre est-ce qu'il faut plus ou moins d'Europe. Évidemment, de dire que tous les problèmes seraient résolus aujourd'hui en faisant moins d'Europe, en fermant les frontières, en arrêtant tout et en revenant comme avant et en faisant une bonne petite misère française avec des patrons français, des ouvriers français, des inégalités françaises, des injustices françaises, de la misère française, ce soit la solution. C'est évidemment pas une solution de dire il faut moins d'Europe pour régler les problèmes. Mais de la même façon, dire tous les problèmes vont se régler en faisant plus d'Europe et en faisant les promesses qui sont faites depuis 25 ans en disant ah oui, aujourd'hui c'est nous qui le faisons, mais c'est pas bien comme il faut et demain on va faire ça. Et évidemment, ne jamais le faire derrière, c'est pas non plus la bonne solution. La question qu'il faut se poser, c'est si on veut une Europe, si on veut rassembler les peuples, pourquoi faire? Dans quel intérêt? Pour quel but? Et c'est ça la question qu'il faut poser aujourd'hui, parce que l'Europe économique s'est faite, c'est vrai, avec le libre-échange. Malheureusement, l'Europe sociale, l'Europe culturelle, etc., s'est faite aussi, notamment au niveau social, mais elle s'est faite par le bas en général, parce que l'Europe économique imposait son mode de fonctionnement, imposait sa façon avec la réduction des dépenses publiques, avec toute une série de mesures. L'Europe, elle s'est faite par une égalisation par le bas de toutes les conditions sociales en Europe. Et dire aujourd'hui simplement oh, bah, il faudrait corriger ça et faire des promesses, la même chose qui s'est fait depuis 10 ans, c'est pas la solution. Aujourd'hui, la solution, l'alternative, la construction européenne, si on veut construire l'Europe, c'est de prendre le meilleur dans chaque pays pour le partager avec les autres. Et ça se fait pas avec des promesses électorales, ça se fait en allant arracher les droits dans chaque pays et en le faisant de façon le plus coordonnée possible entre les peuples européens pour gagner ses droits, pour s'égaliser, pour partager tout ce qu'on a de meilleur. Et c'est aujourd'hui, face à la situation, c'est répondre aux besoins de la population, répondre aux besoins des salariés. Quand on a, prendre l'exemple du Nord-Pas-de-Calais, mais sur les 12 derniers mois, 35 000 de chômeurs de plus inscrits à la NPE, 35 000 chômeurs sur 12 mois, ça fait 100 par jour dans la région, ici. Donc il ne s'agit pas seulement de dire on va prendre des petites mesures, on va faire ceci, cela, ça va aller mieux, on va corriger ce qui ne va pas. C'est prendre des mesures concrètes et défendre des mesures concrètes pour améliorer les choses. Et c'est les questions sur évidemment l'interdiction des licenciements, l'arrêt des suppressions de postes et la création massive de postes dans les services publics qui sont utiles, l'eau, le logement, les transports, des services publics à construire, des services publics à sauver aussi, l'éducation, la poste, les hôpitaux. Il y a des domaines utiles pour la population où on ne doit pas mettre en concurrence comme le fait aujourd'hui. Moi, je suis élève infirmier, la loi Bachelot, elle met en concurrence les hôpitaux pour détruire la santé, pour aller vers le plus bas possible dans tous les pays européens et développer le privé. Mais non, il faut investir massivement dans l'hôpital public et partout en Europe. Et ce qu'on a en France, il faut le préserver, mais il faut se battre non seulement pour préserver ce qu'on a au niveau de la santé publique en France, mais il faut se battre avec l'ensemble des pays européens pour que ce soit un modèle, pour l'ensemble de l'Europe. Et nous, on a des choses à aller chercher, des modèles à aller chercher dans d'autres pays, mais ça passera par des batailles avec l'ensemble des salariés en Europe, avec l'ensemble de la population, pour aller vers une situation la meilleure pour tous.
Merci, Monsieur Jan Powels. Alors maintenant, la même question, évidemment, à Madame Corinne Lepage. Comment faire l'Europe des citoyens?
Alors, trois points rapides. Un, monter vraiment une Europe sociale, c'est-à-dire qui est le volet social du développement durable. On l'oublie toujours. On parle de développement durable, on oublie constamment le volet social. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que la crise nous renvoie à une réalité extrêmement crue. C'est que les stagnations, voire les baisses de pouvoir d'achat ne pourront plus être compensées par une augmentation du crédit, comme ça a été le cas depuis des années et des années. Ce qui veut donc dire, je le disais rapidement tout à l'heure, que les questions de rapport de force au sein des entreprises, de pouvoir des syndicats, de rémunération vont devoir être posées. Cela veut dire aussi, parce que la situation dans les petites et moyennes entreprises et dans les très grandes multinationales n'est pas du tout la même, cela veut dire que la question de l'actionnariat devrait être posée, et en particulier s'interroger sur le point de savoir si les actionnaires de passage ou les actionnaires stables doivent, dans notre Europe, avoir le même régime fiscal et le même régime juridique. Je ne le crois pas du tout. Je pourrais aller beaucoup plus loin, mais évidemment, je n'ai pas le temps. Essayer d'aller le plus loin possible avec la difficulté pour construire l'Europe sociale, c'est que les pays, notamment du nord de l'Europe, dans lesquels la situation est la plus enviable, ne souhaitent pas mettre le sujet sur la table précisément parce qu'ils ont peur de perdre le niveau auquel ils sont parvenus. Il faut donc que nous travaillions par pays qui ont envie d'être plus en avant pour entraîner les autres et faire sur le volet social ce que nous avons fait sur le volet de l'euro. La culture, parents pauvres, on n'en parle pas, on n'en parle presque jamais dans cette campagne, c'est pourtant essentiel, c'est ce qui nous rapproche. Vous parlez de l'Europe des citoyens, c'est d'abord par la culture qu'on doit la faire. Il existe des programmes extrêmement poussés pour tout ce qui concerne les jeunes. Eh bien, il faudrait inventer des programmes comparables pour ceux qui le sont moins. Des échanges entre adultes, des échanges au niveau de la formation, alors des débats commencent à exister au niveau de ce sujet-là. Mais c'est absolument fondamental que nous apprenions à savoir comment les autres vivent et qu'il puisse y avoir des échanges qui sont effectivement organisés. Troisième point sur les citoyens eux-mêmes. Oui, bien sûr, il faut renforcer les pouvoirs des citoyens en Europe. Vous l'avez dit, ce qui s'est passé sur le référendum est effectivement très choquant, je le reconnais tout à fait. Moi, je suis pour qu'il y ait un référendum d'initiative citoyenne au niveau communautaire, que les citoyens puissent obtenir que des décisions soient prises sur des sujets qui leur apparaissent essentiels. C'est quelque chose qu'on aurait pu avoir, qu'on n'a pas eu, du fait que le traité n'a pas été voté. Il faut de la transparence. Vous avez parlé de la Cour des comptes tout à l'heure, oui. La transparence au niveau de la manière dont les décisions se prennent. Je pense que nous, qui nous présentons aux élections européennes, nous devrions prendre l'engagement de cette transparence vis-à-vis de nos concitoyens, si nous sommes élus, de rendre des comptes sur ce que nous faisons, de rendre des comptes sur qui nous rencontrons. C'est encore la meilleure manière de faire en sorte que le lobbying n'ait pas les effets délétères qu'il a. Rendre des comptes et expliquer. Voilà, et je dirais enfin, et c'est le moindre des choses, de s'engager à être particulièrement présent dans les instances européennes, parce qu'évidemment, si on n'est pas là, on a particulièrement du mal à rendre compte de ce qu'a pu se dire.
Merci. Merci, Madame Lepage. Monsieur Jacques Hénin, votre analyse et vos propositions.
L'Europe sociale, l'Europe citoyenne. A-t-on essayé de demander à quelqu'un qui est en plein désert et qui a soif s'il veut boire ? La réponse est évidemment oui. Chaque citoyen de l'Europe souhaite avoir un salaire décent qui lui permette de vivre. Chaque citoyen de l'Europe espère avoir un droit à la santé le meilleur possible sur tout le territoire européen. Chaque citoyen européen espère avoir le droit pour ses enfants d'étudier dans les meilleures conditions, quelle que soit son origine sociale. Ça n'est pas possible avec les règles qui sont instituées par le traité de Lisbonne. Et ceux qui vont vous dire que c'est possible vont vous mentir. Pourquoi ? Parce que l'Europe ne s'occupe que du marché et pour tout le reste, ça s'appelle la subsidiarité et c'est laissé à l'appréciation des pays. Alors ça n'est pas parce que certains pays auraient trop d'avancées qu'ils ne voudraient pas qu'on en discute. C'est au contraire parce que les pays qui en ont le moins espèrent obtenir des délocalisations d'entreprises chez eux pour avoir la construction de richesses quand les autres perdront cette même richesse. À partir de là, qui veut construire l'Europe sociale abroge le traité de Lisbonne, engage le plus vite possible la rédaction d'un nouveau traité européen et permet à l'ensemble des citoyens européens de s'exprimer le même jour en même temps sur ce traité, mais ne les laisse pas se faire voler leurs décisions par quelques politiques qui s'arrangent toujours ensemble pour taper sur le dos des mêmes.
Merci, monsieur Hénin. Gilles Pargneau.
Oui, cette Europe sociale et citoyenne, elle reste à construire. Et je crois, effectivement, tout à l'heure, on parlait de Michel Rocard et de l'élection européenne de 1994. Il avait raison de vouloir construire cette Europe sociale. Après le marché unique après Maastricht. Il était nécessaire que cette Europe ne soit pas uniquement financière, mais qu'elle puisse ne pas être uniquement qu'une zone de libre-échange, mais que l'on puisse faire en sorte de protéger les citoyennes et les citoyens dans le cadre d'une politique sociale menée à l'échelle européenne. Malheureusement, force est de constater que la décennie qui a suivi, c'est une décennie libérale et uniquement libérale. Et on aurait aimé que les 6 derniers mois de l'année 2008 avec la présidence française puissent remettre un certain nombre de sujets sociaux. Or, malheureusement, le bilan social de cette présidence française 2008 a été nul, zéro, aucune proposition pour le bilan social. Et pourtant, et c'est ce que disent les socialistes européens dans cette campagne, il faut qu'une autre politique soit menée permettant ainsi l'adoption d'un pacte de progrès social. Et pour cela, au-delà du traité, il nous faut faire en sorte qu'un rapport de force nouveau. Et nous pensons, nous les socialistes européens unis, pouvoir peser pour être le premier groupe au Parlement européen. Aujourd'hui, c'est le PPE que soutient M. Riquet qui est majoritaire. Donc il nous faut inverser, faire en sorte que nous puissions être majoritaires. Et pourquoi faire ? Par exemple, nous avons ici dans la salle Jean-Louis Cottini, qui est député européen sortant, qui est à l'initiative du Fonds européen de mondialisation. Car on le sait qu'il est nécessaire que cette protection pour les entreprises qui délocalisent, pour les entreprises qui font des licenciements purement financiers, eh bien, il faut que nous puissions les aider pour leur reclassement ou pour faire en sorte que nous puissions être à leur côté. Ce Fonds européen de mondialisation que soutient activement Jean-Louis Cottini dans le cadre de sa commission Affaires sociales emploi au Parlement européen, eh bien, il nous faut bien évidemment qu'il soit bien plus important. Et cette clause sociale, nous soutenons la mise en œuvre d'une clause sociale que veut la Confédération européenne des syndicats par l'intermédiaire de son secrétaire général John Monks. Car il est important que nous ayons à l'échelle européenne cette clause sociale qui permette d'indiquer que non seulement on peut prévenir en ayant ce pacte pour l'emploi pour éviter les délocalisations qui sont scandaleuses, mais qu'ensuite nous puissions avoir une clause sociale pour protéger tout salarié en Europe. Cela, et on le dit avec l'ensemble des socialistes européens, on le dit aussi avec la Confédération européenne des syndicats, c'est possible. Mais il s'agira de faire en sorte qu'on puisse avoir un nouveau rapport de force au sein du Parlement européen, puis ainsi Merci. Au sein de la Commission européenne, car elle devra être représentative de cette nouvelle majorité du Parlement européen.
Merci, Monsieur Pargneau. Monsieur Frédéric Nihous.
Écoutez, quand on lit la question, ne faut-il pas, après l'Europe économique, faire celle des citoyens ? Déjà, tout le monde a montré un petit peu tout à l'heure que l'Europe économique, elle ne fonctionnait pas, elle ne marchait pas. Alors, si c'est pour faire l'Europe des citoyens de la même façon, autant arrêter là et essayer de faire fonctionner déjà le peu qui est en place. Ça serait déjà pas mal, parce que progressivement, c'est pas une Europe des citoyens qu'on a actuellement en place, c'est une Europe des sujets. On est tous assujettis aux desiderata de la Commission européenne, ce sont eux qui décident, Barroso et toute son équipe derrière, ceux qui l'ont été, ceux qui veulent l'être ici actuellement, et ça ne peut pas fonctionner comme ça. On a vu avec le résultat du référendum, que ce soit en France, en Irlande ou aux Pays-Bas, on n'écoute pas le peuple. Quand il se prononce, on va aller le faire revoter, les Irlandais vont voter une troisième fois sur leur référendum, et ils ont dit non, c'est tout, qu'on les respecte. Ça, c'est la démocratie, et on ne fera pas une Europe des citoyens sans cette démocratie-là. Tant que l'Europe fonctionnera dans sa tour d'ivoire, enfermée entre experts, entre irresponsables politiques, parce que je vous rappelle quand même que ces technocrates et ces commissaires européens sont irresponsables politiquement. Nous, à la limite, il y a ici des parlementaires européens. Vous n'en voulez plus, vous pouvez les mettre dehors le 7 juin. Vous les voulez encore, vous pouvez les faire réélire. Les technocrates européens, on les a sur le dos jusqu'au bout. Donc je crois qu'il y a besoin de contrôle, on a besoin d'une Europe de la transparence, on aura besoin d'une Europe démocratique, d'une Europe responsable. Et seulement après, on pourra faire effectivement une Europe des citoyens. Pour ce qui est de l'Europe sociale, mais tant qu'on ne réglera pas les problèmes économiques, on ne pourra pas faire de social, tout simplement. C'est lié, tout le monde l'a montré depuis tout à l'heure. Donc il faut réfléchir d'abord à régler ces problèmes économiques pour du coup se donner une bonne base pour régler ces histoires sociales. Mais je poserai simplement une question. Quand l'Europe va vouloir se mêler justement de cette politique sociale. On risque fort d'avoir une harmonisation. On sera aligné sur quel modèle ? Sur le modèle français ? Sur les modèles où il n'y a quasiment pas de protection sociale ? Pour les modèles où tout le monde doit se débrouiller avec un système à l'américaine ou autre, on n'en sait rien. Donc ça risque fort d'être un nivellement par le bas, et au final, ce sont les Français qui seront là encore les grands perdants chez eux. Donc je crois qu'il faut être particulièrement vigilant à ça. Alors que ce soit sur cette Europe économique, que ce soit sur l'Europe sociale, des citoyens, de la culture, à condition qu'on respecte les cultures aussi. On ne peut pas avoir, Madame Lepage, un discours régionaliste en France en disant « respectons les cultures de nos régions » pour ne parler que d'une harmonisation de la culture en Europe. Donc la question, en fait, par rapport à tous ces sujets, ce n'est pas plus d'Europe ou moins d'Europe, c'est mieux d'Europe, tout simplement. Donc là, on est dans une fuite en avant complète dans tout ce qui se prépare, et ça, c'est particulièrement grave. Donc faisons d'abord l'Europe démocratique, ça sera déjà pas mal.
Merci, Monsieur Federini. Nius, Madame Marine Le Pen.
Oui, bah écoutez, l'Europe sociale, ça va être vite fait. Hein. C'est effectivement l'uniformisation par le bas. À chaque fois qu'on a voulu uniformiser, eh bien, on s'est retrouvé avec, on a réintroduit le travail des femmes. Bravo l'Europe, belle avancée sociale. Hein, en France, où le travail des femmes n'existait plus, ça c'est impeccable, ça. Honnêtement, c'est nickel. En matière d'hôpitaux, on est en train de vous préparer, et ça va être voté probablement par la majorité des gens qui sont ici présents. On est en train de vous préparer la possibilité pour chaque citoyen européen de pouvoir venir, alors qu'il n'a pas cotisé dans le pays en question, venir se faire soigner en France. C'est-à-dire que l'ensemble des citoyens européens vont pouvoir venir se faire soigner dans les hôpitaux français. Objectivement. Déjà, nos hôpitaux n'en peuvent plus. Déjà, ils n'ont pas assez de moyens, parce qu'en même temps, le pacte de stabilité fait qu'on nous demande de ne pas dépenser de l'argent pour la santé. On ferme les cordons de la bourse, et même pour des choses aussi importantes que la santé. Et demain, on va demander à nos hôpitaux, qui sont en sous-effectif, qui sont avec du matériel obsolète, à qui on n'accorde aucun crédit, de pouvoir soigner l'ensemble des Européens qui voudraient s'y faire soigner. Mais vous imaginez dans quel état ça va être la disparition de notre système de santé. Voilà. Donc l'Europe sociale, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas commencé, ou si elle a commencé, elle a très mal commencé. Quant à l'Europe des citoyens, enfin bon, les citoyens, j'imagine qu'on parle là d'identité, il faudrait peut-être commencer par ne pas détruire les identités nationales et les identités régionales. Parce que là aussi, la première action de l'Union européenne a été de vouloir uniformiser l'ensemble des modes de consommation. C'est plus facile, les multinationales vendent plus facilement quand tout le monde mange la même chose. Hein. À vouloir s'attaquer à l'ensemble de nos traditions régionales, à notre savoir-faire, à nos produits du terroir. Je vous signale que c'est ainsi que l'Union européenne a voulu nous imposer que le rosé, ce soit le mélange de blanc et de rouge. Ben, comme ça, c'est aussi simple. Ça permettait aux produits d'importer sur le territoire de l'Union européenne, de la piquette sur laquelle on aurait mis l'étiquette rosée. Ça a été vrai pour les traditions, notamment de la chasse et de la pêche. À chaque fois, l'Union européenne a voulu contraindre, limiter, mettre des interdictions, des restrictions. Laissez-nous être ce que nous sommes déjà. On ne peut pas d'un côté nous dire que de la diversité naît la richesse, et en même temps vouloir au sein de l'Union européenne tous nous mettre dans le même moule et faire disparaître ce qui fait là justement la richesse et la spécificité de chacun des peuples qui constituent l'Union européenne. Et puis peut-être que le citoyen étant différent de l'habitant, le citoyen c'est aussi celui qui a le droit de choisir. Est-ce que la première chose c'est de ne pas commencer à laisser les peuples choisir avec qui ils ont envie de faire l'Union européenne ? Parce que la majorité du peuple français ne veut pas de la Turquie dans l'Union européenne, nation par ailleurs éminemment honorable, respectable, avec une grande civilisation, mais pas européenne. Eh bien, pourtant, on va nous imposer l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne, puisque, Monsieur Riquet, votre gouvernement a participé à nous supprimer le référendum qui permettait au peuple français de s'exprimer sur toute nouvelle adhésion. Alors, commençons par ça, ce sera un bon début. Plutôt que de nous dire on est tous contre l'Europe, sachez, mesdames et messieurs, que la France verse, via le budget européen, 96 millions par an pour permettre la préadhésion de la Turquie. Voilà. Merci. Ça, c'est le double langage dont je vous parlais tout à l'heure.
Merci, Madame Le Pen. Eh bien, Monsieur Dominique Riquet.
Avant de répondre à la question et en dehors de mon temps, Madame Le Pen, le gouvernement a effectivement supprimé ce que vous dites, mais il a réintroduit le référendum d'initiative populaire dans la réforme constitutionnelle, ce qui est beaucoup mieux que de prévoir un référendum strictement sur le sujet. Donc ça veut dire que le sujet restera toujours d'actualité, beaucoup plus facilement qu'avant. Alors, je réponds brièvement à la question qui est extrêmement compliquée. Hein. Moi, là, j'ai quand même... Je suis désolé, mais on a un déferlement de démagogie qui est quand même assez effarant. Et je me disais que dans une enceinte du mouvement européen, on pourrait discuter sérieusement. C'est quand même compliqué. Alors, effectivement, l'Europe n'a pas de politique sociale structurée dans la mesure du principe de subsidiarité qui a été exposé par M. Hénin, c'est-à-dire qu'on laisse la responsabilité de cette politique aux États. Il y a des principes généraux qui sont appliqués. Je vois bien qu'on peut déplorer qu'il y ait trop d'Europe, mais quand on déplore aussi qu'il n'y en ait pas assez, il faut s'entendre. Sur le plan social, il est clair que les modèles sociaux sont très différents en Europe et que, quitte à me faire recifler d'ailleurs, le modèle français est un des modèles les plus protecteurs dans le monde et même dans l'Union européenne. Et que nous avons plus à perdre, effectivement, de l'uniformisation du modèle européen par le bas que par le haut. Et pour l'instant, il y a un problème pratique. C'est que l'uniformisation, c'est difficile, excusez-moi, par le haut, n'est pas économiquement réaliste pour beaucoup de pays. Ceci étant, il y a des vrais sujets quand même. Bon, il y a à continuer à porter les idéaux européens, je crois que c'est très important, à l'extérieur comme à l'intérieur, et à définir des principes généraux dont on doit faire monter le niveau tout le temps. Vous avez parlé de famille, vous avez parlé de social, vous avez parlé de travail. Bon, le travail et les droits des travailleurs doivent être effectivement constamment améliorés et passent avant tout par l'amélioration de la situation économique, première chose, et deuxième chose, par un nouveau rapport entre le capital et le travail, qui est un vrai sujet. Voilà, ça c'est un vrai problème. C'est peut-être pas une déclaration fracassante, je veux dire que la clé est là, produire plus de richesses et les répartir différemment, mieux. Et il faut moraliser effectivement le capitalisme, la finance, il faut revoir les outils de production de manière différente, et ça, ça peut être fait à l'échelle européenne, effectivement. Il y a à regarder les problèmes de services publics et c'est un très bon biais européen pour travailler sur la santé, pour travailler sur le droit de la famille, pour travailler sur un certain nombre, sur le handicap, pour travailler sur la vieillesse. Et vous avez là des outils, mais c'est un peu compliqué à expliquer dans une assemblée en 2 minutes, comme vous le savez. Mais l'Europe peut mener des politiques sociales de progrès. Simplement, moi je dis une chose, c'est que si nous avons le traité de Lisbonne, nous ferons beaucoup mieux, et je parle sous le contrôle des députés européens qui sont là. Beaucoup plus de pouvoir parlementaire, ça a toujours été dans le sens du progrès social à l'Europe, n'est-ce pas, Madame Flotte ? On ne me dira pas le contraire. Et donc, revenons sur un régime parlementaire. Prenons les vrais sujets sans démagogie. C'est-à-dire en disant, il faut monter les niveaux. Et quand vous montrez le niveau social des pays les plus en retard de développement en Europe, vous réglerez les problèmes des délocalisations en même temps. Parce que le dumping social, effectivement, il disparaîtra de ce fait. Donc c'est un travail de longue haleine, l'Europe. Ça fait quand même très longtemps qu'on y est, des dizaines d'années. Et tout, évidemment, on ne peut pas tout résoudre tout le temps. Il faut continuer à avancer avec beaucoup de courage. Merci, plus de courage encore quand il y a une crise.
Merci, Monsieur Riquet, pour tenir votre temps. Et bien, Madame Hélène Flautre, il vous appartient de conclure cette question.
Je voudrais mettre au clair une question qui est celle du référendum. Moi, je pense sérieusement, que ce soit à propos de la Turquie ou d'une future proposition de constitution pour l'Union européenne, ce dont nous avons besoin, l'expérience que nous devons tirer des méandres lamentables du traité constitutionnel devenu traité de Lisbonne et que nous allons demander aux Irlandais, de revoter, c'est que nous avons besoin d'un référendum européen avec une double majorité. Même une double majorité qualifiée. Nous avons besoin, sur des grands textes et des grandes orientations européennes, de consulter vraiment les Européens. Une majorité qualifiée d'Européens devra le valider et une majorité d'États de l'Union européenne devra le valider. Cette double majorité qualifiée nous permet enfin de prendre des décisions réellement à l'échelle européenne et de nous sortir de l'imbroglio dans lequel nous ont mis le non français, mais le oui espagnol, le non néerlandais, mais le oui luxembourgeois. Et nous ne devons pas, et certainement pas aujourd'hui, et moins que jamais, opposer les peuples et les États au sein même de l'Union européenne. Sur les questions sociales, moi j'ai entendu des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, notamment sur les services publics. Nous entrons dans une période où plus que jamais les citoyens européens vont avoir besoin de compter sur des services de qualité accessibles à tous dans les meilleures conditions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 1. moratoire sur les libéralisations. Nous n'avons pas, et le Parlement européen l'a demandé à plusieurs reprises, d'évaluation sérieuse de l'impact des différents secteurs qui ont été libéralisés jusqu'à ce jour. Et ça veut dire, enfin, nous l'avons, elle existe, cette directive cadre sur les services d'intérêt général. Les syndicats ont déjà travaillé, les partis politiques ont déjà travaillé, nous avons un projet. Et si nous n'avions pas aujourd'hui à la tête de la Commission un monsieur Barroso qui est vraiment un orthodoxe libéral, qui est vraiment la serpillière du Conseil et qui est extrêmement perméable aux derniers lobbies qui passent dans son bureau, nous aurions aujourd'hui une directive sur les services publics. Il y a aujourd'hui en Europe des gens qui sont les plus pauvres d'entre les pauvres, qui sont aujourd'hui montrés du doigt et qui pourraient devenir très rapidement demain les boucs émissaires, ce sont les étrangers et les étrangers en situation non régulière. Je crois que l'Europe s'honorerait grandement à garantir à ces personnes, pour la plupart non expulsables, comme les Afghans qui sont à Calais, ces Afghans que l'on ne peut pas renvoyer dans le pays, dans ce pays où nous faisons la guerre. Eh bien, ces personnes doivent bénéficier d'un statut européen de protection. Il faut en finir avec une politique d'asile, peau de chagrin, avec une politique européenne qui renvoie les migrants d'un pays à un autre, arrivant à la situation que ces personnes, j'en termine, non expulsables, sont sans statut et du coup à la merci des passeurs.
Merci. Bien. Vous avez pu noter combien la question concernant la construction d'une Europe sociale est complexe et difficile, tant les diversités des 27 pays composant l'Europe est importante. Et partant de là, vous semblez tous plus ou moins accepter l'idée d'un nouveau traité européen. C'est-à-dire que vous pensez, aller au-delà du traité de Lisbonne et que la nouvelle mandature qui sera la vôtre pourrait-elle se pencher à l'écriture d'un nouveau traité européen. Alors, une minute de réponse, Monsieur Jan Powels.
Mais la question, c'est toujours pareil, c'est pour ou contre. Je vais pas faire comme Jackie Hénin, toujours dire les questions sont pas terribles, mais pour ou contre. Je pense que la question est pas terrible. Je suis d'accord avec lui pour dire que les questions sont pas terribles. Oui. On peut pas dire.
Mais
pour
elle ou s'inscrit contre. Dans la
moi,
durée.
Moi, je suis pour un processus constituant, contrôlé, dirigé par les peuples, pour déterminer ensemble quelle Europe ils veulent construire, pour une Europe des peuples et des travailleurs. Et ça, je suis pour. Mais c'est pas des parlementaires qui vont être élus, on prévoit pour l'instant 30% de participation au niveau européen, dans un Parlement où finalement les pouvoirs sont surtout, sont pas là, les pouvoirs sont au niveau des gouvernements et au niveau de la Commission européenne, on n'est pas là, dire aujourd'hui, c'est cette élection-là qui peut provoquer l'élaboration d'un nouveau traité européen, c'est pas sérieux.
D'accord. Bien, Madame Lepage.
Écoutez, je pense que la gravité de la crise fait que les données qui ont été celles du précédent traité, vont être considérablement bouleversées. Alors, bien sûr, on a un précédent qui est très douloureux, dont on n'est du reste pas tout à fait sorti. Je pense néanmoins que la question de notre mode de fonctionnement et des valeurs sur lesquelles nous voulons fonctionner va se retrouver automatiquement, du fait de la crise et qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sur le tapis. Et peut-être les équilibres seront-ils aujourd'hui différents, permettant effectivement à une majorité d'Européens dans tous les pays d'Europe d'être favorables à ce nouvel équilibre.
Monsieur Hénin.
Écoutez, après tout ce que j'ai dit sur les règles qui sont mauvaises, je défends l'idée qu'il faut changer ces règles et réorienter le sens de la marche en avant de cette Europe. Plutôt que de construire de l'argent pour construire de l'argent, il faut mettre au centre du débat les préoccupations et les besoins des hommes et des femmes qui habitent sur le territoire européen. Et je dirais, pour conclure cette minute, que le Parlement européen ne souffre pas de ses pouvoirs. C'est de sa majorité dont il souffre. Tant que la majorité du Parlement européen se réunira pour voter de mauvaises lois, les lois seront toujours mauvaises. Il n'a pas de problème de pouvoir. Et de ce point de vue, je crois que nous devons balayer devant notre porte. Parce que quand on nous dit en France qu'il n'y a pas d'argent pour rien depuis des années et qu'on crée le bouclier fiscal en remboursant des chèques en moyenne de 300 000 euros, c'est se moquer du monde. Donc on ne donne pas le bon exemple et on crée l'idée qu'on ne peut rien changer et que finalement, des riches et des pauvres, il y en aura toujours.
Monsieur Pargneau.
En une minute.
Oui, en une minute.
Tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait moins de budget. Au niveau européen. C'est, ce sont les libéraux qui disent cela. Parce qu'ils n'ont pas envie qu'il puisse y avoir de l'ordre qui soit mis en œuvre par rapport à la pratique économique et budgétaire de l'Union européenne. Donc nous sommes favorables à ce qu'il y ait rapidement un nouveau traité. Je vous disais tout à l'heure que le traité de Lisbonne ne borne pas l'action des socialistes européens pour les 5 années à venir. Et avec quelques mots, une première priorité, faire en sorte que nous puissions avoir un budget plus conséquent et une fiscalité propre. Deuxième priorité, faire en sorte que la clause sociale puisse être inscrite dans ce nouveau traité, comme je le disais, en relation avec la Confédération européenne des syndicats. Troisième grande idée, c'est de faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes, nous ayons des objectifs plus ambitieux en matière de plan climat. On va y revenir dans la question 4, mais je pense que c'est indispensable que l'on puisse avoir une politique. Quatrième grande idée, c'est de faire en sorte, comme vient de l'indiquer Hélène Flotte fort justement, que nous ayons une politique de l'immigration qui ne soit pas celle honteuse que les Européens majoritairement de droite ont mise en place avec la directive de la honte. Voilà les 4 grandes priorités que les socialistes européens souhaitent mettre en œuvre en ayant évidemment un nouveau traité.
Merci, Monsieur Frédéric Nihous.
Mais écoutez, je crois que la question d'un nouveau traité ou d'un ancien traité se pose pas vraiment. Le peuple a parlé, le peuple a tranché. Moi, je suis désolé, mais en démocratie, on ne revient pas sur l'avis du peuple. Alors, à chaque nouveau traité, il y a eu le traité de Nice. On nous a expliqué que c'était le meilleur des traités pour l'avenir. Quelques temps après, on nous pose le référendum sur un projet de constitution, nous disant « ça, c'est génial, c'est super, etc. » Et on nous pond finalement le traité de Lisbonne, qui n'est qu'un avatar de ce projet de constitution qu'a rejeté le peuple français. Il ne faudrait pas l'oublier quand même, à près de 63 ou 64% ici dans la région quand même. Donc je crois que ça se respecte. C'est très révélateur de cette fuite en avant, où pour régler les problèmes d'un traité, ou parce qu'on n'arrive pas à le régler, parce qu'il n'est toujours pas appliqué, d'autres pays n'ont pas fait de référendum parce qu'ils ont eu peur de la réponse. Regardez l'Angleterre, elle était dirigée par des socialistes. Les socialistes qui avaient peur du peuple, c'est quand même un monde. Mais il faut quand même prendre en conscience dans cette question-là qu'on ne va pas faire cette fuite en avant sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc je crois que ce qu'il nous faut, c'est une Europe Merci. Démocratique qui respecte les peuples et qui agisse Merci. Pour leur mieux vivre, tout simplement, pas pour les banquiers, les financiers
Merci,
ou je ne sais quoi.
Monsieur Nihous. Madame Le Pen.
Oui, un nouveau traité. Mais qu'est-ce qu'il y aura dedans? Si c'est pour qu'il y ait encore plus de dérégulation, encore plus d'ultralibéralisme, encore plus de libre-échangisme, encore moins de social, comme à chaque fois qu'il y a un nouveau traité. Non, merci. Monsieur Riquet, vos affiches disent, celles qui ne sont pas encore collées, je vous rassure, vous êtes un peu en retard sur les autres dans cette campagne. Si l'Europe veut, l'Europe peut. C'est donc qu'elle ne veut pas depuis 30 ans. C'est ça qu'il faut en comprendre. Moi, j'ai l'impression d'entendre, comme on entendait dans les années 60, pour l'Union soviétique. Le collectivisme, ça ne marche pas parce qu'il n'y en a pas assez. Et plus il y en avait, et moins ça marchait. L'Europe, c'est un peu ça. Ça fait 30 ans qu'on nous dit, ça ne marche pas parce qu'il n'y en a pas assez. Et plus il y en a, et moins ça va bien. Alors, s'il s'agit de changer les politiques européennes, oui, stop à la concurrence libre et non faussée, qui introduit la loi de la jungle. Celle que personne n'a contestée réellement, en tout cas dans les groupes majoritaires, en tout cas dans les groupes majoritaires au Parlement européen. C'est vrai que sur ce sujet-là, nous votons beaucoup la même chose, Monsieur Hénin, au Parlement européen. Ça, c'est une réalité. Stop, mise en place de la préférence communautaire à l'emploi, mise en place de la préférence communautaire des produits. Parce qu'à un moment donné, à quoi sert l'Union européenne si elle sert à ouvrir à tout vent notre secteur sans être capable de le protéger Sinon.
Merci de terminer.
Non.
Terminez votre phrase.
Bon, d'accord. Donc, juste une phrase.
Une phrase.
Non, c'était parce que c'était un fait personnel. C'est ce qu'on appelle dans les assemblées. Monsieur Pargneau, si c'est pour donner plus d'argent au fonds d'adaptation à la mondialisation, qui en réalité répare les erreurs que commet l'Union européenne en détruisant nos emplois, non, effectivement, je ne suis pas pour.
Bien. Alors, monsieur Riquet.
L'Europe, elle a commencé dans les années 50 avec un traité qui était le traité de COCA pour le charbon et l'acier, et elle avance et elle progresse depuis ce temps-là. Je voudrais quand même rappeler deux ou trois éléments. C'est que l'Europe a toujours été composée de pays démocratiques, et il ne faut quand même pas oublier que cette Europe, elle est représentée par des gens qui sont élus librement dans des pays démocratiques. Que d'ailleurs, nous avons été rejoints récemment par 12 pays qui ont fait l'expérience d'un autre système sur lequel je ne m'étendrai pas, mais qui ont trouvé quand même qu'on était beaucoup mieux en Europe. Bon. Et dans ce système démocratique, on progresse avec difficulté de traité en accord et d'accord en traité, et à chaque fois vers plus de démocratie. Le traité de Lisbonne qui donne plus de pouvoir au Parlement, c'est un progrès démocratique. Mais bien sûr qu'il faut aller beaucoup plus loin. La Commission, qui est une invention européenne finalement, et qui a été mise en place parce qu'il y avait beaucoup de difficultés à coordonner les politiques de tous ces pays, elle devrait être appelée à disparaître. Moi, je suis d'accord pour les référendums européens tels qu'ils ont été décrits. Je pense qu'on doit aller vers un Parlement comme on le connaît et un gouvernement comme on le connaît. Et les gens s'y retrouveront et ça sera une Europe démocratique.
Merci.
Donc, il faut continuer à avancer. Voilà.
Merci. Madame Flautre.
Moi, je crois qu'il faut un nouveau traité dans la mesure où, comme ça a été dit et comme je l'ai dit moi-même, le traité de Lisbonne ne permet pas de répondre aux défis qui sont posés. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, il faut renouer l'engagement citoyen pour l'Europe. Et il faut le faire à travers une constitution pour l'Europe qui soit vraiment une constitution. C'est-à-dire qui fixe des valeurs, qui fixe des objectifs, qui fixe des institutions, des compétences, mais qui ne constitutionnalise pas des politiques qui doivent toujours rester le fruit du débat démocratique, le fruit des décisions du Parlement européen et du Conseil. Qu'est-ce que nous allons faire ? Dans ce traité de Lisbonne, il y a une clause qui est intéressante. Il y a plusieurs clauses intéressantes. Il y a les initiatives citoyennes de 1 million qui permettent aux citoyens de demander à la Commission une proposition de loi sur tel ou tel sujet. Mais il y a aussi, pour les parlementaires que nous sommes, la capacité d'initier une révision des traités. Et ça, c'est totalement nouveau. Et nous, nous allons déposer, dès que Lisbonne sera adoptée, la révision concernant la fiscalité. Parce que réellement, c'est au taux bloquant pour les questions que nous avons débattues, économiques et sociales. Merci. Nous avons besoin d'être capables de décider d'une fiscalité européenne.
Merci, Madame Flautre, sur cette question. Eh bien, nous allons passer à la dernière question de cette soirée.